persécutions au Moyen Âge de la parole du Seigneur au-dedans, on voyait que tout homme qui n'était pas en conformité ou en accord avec l'Église catholique était tué. Extrait de The True William Penn, par Sidney George Fisher 1900 p. 78-82. Le texte entre crochets a été ajouté par l'éditeur du site au Moyen Âge, tout avait été absorbé par la théologie et le dogme. Les artistes ne pouvaient peindre que des images ecclésiastiques, et le talent des architectes était consacré principalement aux cathédrales. Les hommes politiques étaient le plus souvent des prêtres, et le testament de chaque homme devait être homologué devant un évêque, qui en faisait aussi la distribution des biens. Les relations domestiques de la vie étaient entièrement entre les mains du clergé. Il n'y avait presque pas de science physique, et le peu qu'il y avait était renvoyé aux théologiens. Si cela concordait avec les dogmes, c'était juste, si cela ne concordait pas avec eux, c'était faux. Si un fait de la nature était contraire à un dogme, tant pis pour la nature. Tout raisonnement se faisait selon la méthode scolastique, dans laquelle les dogmes de l'Église étaient pris comme point de départ à partir duquel on pouvait raisonner, mais auquel il fallait revenir sous peine de mort. L'enquête indépendante, la recherche originale et la libre investigation étaient des crimes. Seul le dogmatique, le miraculeux et l'impossible étaient importants. Les dogmes avaient été élaborés, par la plus rusée ingéniosité humaine, en un système magnifique. À partir du VIIIe siècle, lorsque l'évêque de Rome commença à revendiquer l'autorité de premier évêque ou pape, le développement se poursuivit régulièrement. Le culte de la Vierge commença. Le culte des images, qui avait été une hérésie, fut permis au VIIIe siècle. La transsubstantiation, qui devint finalement l'une des doctrines les plus importantes, n'eut même pas de nom avant le Xe siècle et ne fut pas décrétée de façon définitive avant 1215 âpre, J.C. De même pour la confession auriculaire, décrétée la même année. Jusqu'au Xe siècle, il n'y avait que deux sacrements. Après cela, il y en eut sept. Le célibat du clergé tenté sans succès au IV siècle fut finalement rendu obligatoire au Xe. Commentaire de l'éditeur du site, pour une histoire complète de l'Église, y compris son évolution vers l'erreur connue sous le nom d'apostasie, qui est la prostituée de Babylone, une page séparée est fournie. En plus de tout cela, des miracles étaient supposément accomplis presque chaque jour, dans toute l'Europe, en des milliers de sanctuaires et par des milliers de personnes, et il fallait tous y croire, et des milliers de saints étaient créés, qu'il fallait vénérer, et des chiffons, des ossements et des morceaux de bois sacrés, capables de guérir les maladies et de protéger du danger, se multipliaient à l'infini. Des accompagnements de ce système, nous ne pouvons parler que brièvement. Le plus typique, peut-être, fut la sorcellerie pour laquelle, durant le Moyen Âge, plus de 9 millions d'hommes et de femmes furent mis à mort. Astérisque, d'autres religions ont été affligées par cette illusion, mais aucune religion ne l'a jamais développée à un tel excès que le christianisme supposé, mais en réalité la prostituée de Babylone du Moyen Âge. Plus de 4000 livres furent écrits sur le sujet, et les méthodes pour détecter et punir ce crime supposé étaient aussi régulières et aussi bien reconnues que nos systèmes modernes de police. Astérisque note de l'éditeur du site, il n'y a aujourd'hui aucun moyen de déterminer l'exactitude du chiffre de 9 millions mis à mort, car les archives ne sont tout simplement pas disponibles. Naturellement, ce nombre est très contesté, avec des estimations allant de 10 000 à 75 millions. Ceux qui sont catholiques soutiennent les estimations basses, ceux qui détestent la religion soutiennent les estimations les plus élevées. Le chiffre de M, fiché couvre le Moyen Âge 800 âpres, J.C., à 1500 âpres, J.C. Au cours duquel de nombreuses inquisitions eurent lieu, notamment, espagnoles, romaines, portugaises, médiévales. M, fiché mentionne 4000 livres écrits sur le sujet sans les lister. Fiché 1856-1927 était un prolifique auteur d'ouvrages historiques, tous centrés sur l'histoire et non sur la religion. Ses commentaires sur la religion dans la biographie de William Penn semblent relever du protestantisme grand public. De la cruauté de cette religion, la plupart d'entre nous ont entendu parler. Nous sommes stupéfaits par le système organisé de l'Inquisition, avec ses fonctionnaires régulièrement nommés, comme une entreprise moderne ou un ministère. Nous nous étonnons des hommes qui étudièrent le corps humain et les arts mécaniques dans le but de produire la plus grande quantité de souffrance, qui inventèrent des méthodes ingénieuses pour étirer et broyer les articulations et arracher les ongles, qui écrivirent des manuels pour guider leurs successeurs dans la détection de la plus petite erreur théologique et l'infliction de la plus grande torture, et qui suivirent les voies les plus sûres vers l'agonie, avec le même zèle que les hommes construisent aujourd'hui des voies faciles pour le commerce, et développent la vapeur. Ainsi le christianisme, la bête aux cornes semblable à celle d'un agneau, devint la religion la plus cruelle, autant que la plus superstitieuse, qui ait jamais prévalu parmi les hommes. Mais la part cruelle en était parfaitement logique, car ces gens avaient accepté littéralement et cru absolument non seulement la grande masse des dogmes, mais aussi le dogme qui couronnait l'ensemble et rendait le système complet, la doctrine du salut exclusif. Selon cette doctrine, à moins qu'un homme ne crût à tous les autres dogmes, il ne pouvait être sauvé. S'il refusait de leur donner l'assentiment de son esprit, il devait brûler éternellement en enfer. C'était la clé de voûte de l'arc, et si cela était vrai, tout protestant, dicide et hérétique méritait une mort instantanée, et la mort serait un châtiment trop doux. Les hommes qui, par leur exemple et leur encouragement, feraient naufrager le salut éternel des autres méritaient non seulement la mort, mais toutes sortes de tortures, qu'on leur arrache les entrailles et qu'on les brûle sous leurs yeux, qu'on les déchire vivants entre quatre chevaux, ou tout ce qui rendrait l'hérésie terrible. Face à une éternité de malheur pour des millions, l'angoisse de quelques centaines ne compte pour rien, et c'est ainsi que le Moyen Âge et l'Inquisition raisonnaient logiquement. Fin de la citation de Dru William Penn, par Sidney George Fichet, 1900, p. 78-82. Ce qui suit est tiré des écrits de Saint Thomas d'Aquin sur le traitement des hérétiques, Thomas d'Aquin A. Règlement du synode de Toulouse concernant l'Inquisition, 1229. Les évêques doivent, lorsque nécessaire, astreindre par serment dans chaque paroisse, à l'intérieur et à l'extérieur d'une ville, un prêtre et deux ou plusieurs laïcs de bonne réputation à rechercher avec diligence, fidélité et fréquemment les hérétiques dans leur paroisse. Maisons suspectes particulières, pièces souterraines et annexes de maisons, et autres cachettes. S'ils découvrent un hérétique, un adepte, un patron ou un protecteur d'hérétiques, ils doivent, en prenant garde à ce qu'il ne s'échappe pas, en aviser rapidement l'évêque et le maire du lieu où sont baillis, afin qu'ils soient d'une punis ordre de l'Inquisition épiscopale selon la pratique des synodes de Vérone, Bourges, Narbonne et du XIIe Concile général. Les abbés exempts, qui ne sont pas soumis à la juridiction épiscopale, doivent agir de la même manière que les évêques. Les gouverneurs des districts respectifs devraient ordonner des recherches diligentes des résidences de campagne, des maisons et des forêts afin d'y trouver des hérétiques et de détruire leurs cachettes. Quiconque, en laissant un hérétique séjourner sur sa propriété, soit pour de l'argent soit pour toute autre raison, s'il avoue ou s'il est condamné, perd sa propriété à jamais et son corps est remis à l'autorité civile pour être puni. La peine pour avoir été jugé hérétique était la mort, comme le disait aussi saintement Thomas, le livrer au tribunal séculier afin qu'il soit ainsi exterminé du monde par la mort, est également passible d'une peine légale celui dont la propriété, bien qu'à son insu mais par négligence, est devenue une demeure d'hérétique. La maison où l'on trouve un hérétique doit être démolie et la propriété confisquée. Le bailli qui vit dans un lieu suspect et qui ne fait pas preuve de diligence dans la recherche des hérétiques perd sa charge et il ne lui est pas permis d'être employé, ni là ni en aucun autre lieu. Afin d'empêcher qu'une personne innocente soit punie ou calomnieusement accusée d'hérésie, nous ordonnons que nul ne soit puni comme hérétique ou adepte de l'hérésie avant d'avoir été ainsi déclaré par un évêque ou d'autres personnes du clergé. Tous sont autorisés à rechercher des hérétiques dans les territoires d'autrui, et les baillis doivent les aider. Le roi peut donc rechercher des hérétiques sur le territoire du comte de Toulouse, et le comte de Toulouse sur les terres du roi. Si quelqu'un entaché d'hérésie renonce volontairement à l'hérésie, il ne lui est pas permis de rester dans la maison où il vivait auparavant, au cas où la maison serait suspectée d'hérésie. Il doit être transféré dans une maison catholique exempte de suspicion. En outre, il doit porter deux croix sur son manteau, l'une à droite et l'autre à gauche, et d'une couleur différente de celle de son manteau. Ces personnes ne peuvent occuper une fonction publique ni être admises à des actions en justice, à moins d'être pleinement réintégrées après une pénitence due par le pape ou son légat. Quiconque est revenu involontairement à l'Église, par crainte de la mort ou pour toute autre raison, doit être emprisonné par l'évêque afin qu'il puisse accomplir sa pénitence et ne pas être en mesure de séduire d'autres personnes. Quiconque conserve ses biens doit, sur ordre du prélat, pourvoir à ses propres besoins. S'il ne possède rien, alors le prélat doit subvenir à ses besoins. Tous les membres d'une paroisse doivent jurer à l'évêque, sous serment, qu'ils préserveront la foi catholique et qu'ils persécuteront les hérétiques selon leur pouvoir. Ce serment doit être renouvelé tous les deux ans. Les hommes et les femmes qui ont atteint l'usage de la raison doivent confesser leurs péchés à un prêtre trois fois par an, ou avec la permission de leur prêtre, à un autre prêtre. Ils doivent accomplir les pénitences imposées humblement et selon leurs forces, et recevoir le Saint Sacrement de l'Eucharistie trois fois par an. Quiconque ne le fait pas est suspect d'être hérétique. Il n'est pas permis aux laïcs de posséder les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, seulement le psautier, le bréviaire ou le petit office de la Bienheureuse Vierge, et ces livres ne doivent pas être dans la langue vernaculaire. Quiconque est accusé d'hérésie ou seulement soupçonné d'hérésie n'est pas autorisé à exercer sa profession de médecin. Lorsqu'un malade a reçu la sainte communion de son prêtre, il doit veiller à ce qu'aucun hérétique ni personne soupçonnée d'hérésie ne lui rende visite, car de terribles choses sont déjà arrivées à cause de telles visites. Aucun prélat, baron ni autre supérieur ne confiera la charge de bailli ou d'intendant à un hérétique ou à un adepte de l'hérésie, ni ne gardera à son service quelqu'un qui a été condamné ou soupçonné d'hérésie. Il est accusé d'hérésie ou est soupçonné d'hérésie, quiconque a été légalement prouvé par des personnes bonnes et honorables devant un évêque d'avoir une mauvaise réputation. Et quiconque était prouvé avoir une mauvaise réputation était envoyé aux examinateurs de l'Inquisition tortionnaire, où sous une douleur inimaginable, la plupart avouaient quelque chose aux tortionnaires qui, comme le disait aussi saintement, Thomas, le livrait ensuite au tribunal séculier afin qu'il soit ainsi exterminé du monde par la mort. La plupart de ceux qui n'avouaient pas mouraient dans leur torture. Les femmes qui possèdent des châteaux ou des forteresses ne sont pas autorisées à épouser des ennemis de la foi et de la paix. Quiconque est trop pauvre pour engager un avocat doit, si nécessaire, se voir en fournir un par la curie. Les pasteurs doivent expliquer ces règlements à leurs paroissiens 4 fois par an. Les méthodes impitoyables des catholiques pour trouver les hérétiques font passer les nazis pour des amateurs. Les milliers de prêtres catholiques qui participèrent à cette torture et à ces meurtres de masse étaient tous des croyants, baptisés, communiants, confessant leurs péchés, priant régulièrement, lisant les Écritures, tous de très saints meurtriers de masse. Beaucoup de persécutions catholiques romaines furent justifiées par la célèbre phrase de saint Augustin : Pourquoi l'Église ne devrait-elle pas user de la force pour contraindre ses fils perdus à revenir, si les fils perdus contraignaient d'autres à leur destruction ? Thomas d'Aquin écrivit aussi : Du côté de l'Église toutefois, il y a la miséricorde qui vit à la conversion de l'égaré, c'est pourquoi elle ne condamne pas aussitôt, mais après le premier et le second avertissement, comme l'apôtre l'ordonne, après cela s'il demeure encore obstiné, l'Église n'espérant plus sa conversion, veille au salut des autres, en l'excommuniant et en le séparant de l'Église, et en outre le livre au tribunal séculier afin qu'il soit ainsi exterminé du monde par la mort. Ces deux géants de la foi romaine manifestent une ignorance classique, croyant que la fin justifie les moyens, ce qui fait perdre de vue le principal commandement du Christ, aimer ses ennemis et non les détruire. Et ils ignorent la réponse du Christ à ses disciples lorsqu'il voulait punir ceux qui ne voulaient pas l'écouter, les réprimandant sévèrement par « Vous ne savez de quel esprit vous êtes ». Si quelqu'un viole les normes de l'Église pêche, il est censé être averti par un, puis averti par deux ou trois, puis censuré par tout le corps des croyants et s'il ne se repent pas de son erreur, il est censé être expulsé et évité et non tué, ni emprisonné, ni torturé, ni dépouillé de ses biens. Jean Calvin, l'un des principaux fondateurs du protestantisme encore vénéré par de nombreuses sectes protestantes, força les citoyens de Genève à assister aux offices religieux sous une lourde menace de punition par la mort ou l'expulsion. Parce que Michel Servet avait été en désaccord avec les écrits doctrinaux de Calvin, Calvin accusa et fit arrêter Servet pour hérésie, entre autres divergences, Servet niait le baptême des nourrissons et la Trinité, ce qui conduisit à ce que Servet fut lentement brûlé vif sur le bûcher avec du bois vert. Jacques Gruet, opposant connu de Calvin, fut arrêté, torturé pendant un mois et décapité le 26/07/1547 pour avoir placé une lettre dans la chair de Calvin le traitant d'hypocrite. Calvin fit également brûler sur le bûcher 34 femmes comme sorcières, accusé d'être responsable d'une peste. On attribue à sa théocratie à Genève l'exil de 76 personnes et un total de 58 condamnations à mort, après avoir été torturés pour obtenir leur aveu. Calvin justifia la torture et l'exécution des hérétiques, écrivant « Quiconque soutiendra qu'on fait tort aux hérétiques et aux blasphémateurs en les punissant se rend complice de leurs crimes et aussi coupable qu'eux. Il n'est nullement question ici de l'autorité des hommes, c'est Dieu qui parle, et il est clair quelle loi il veut voir observée dans l'Église jusqu'à la fin du monde. Pourquoi nous demande-t-il une sévérité si extrême, sinon pour nous montrer que l'honneur qui lui est dû ne lui est pas rendu, de sorte que nous n'épargnions ni parenté, ni le sang de qui que ce soit, et que nous oublions toute humanité lorsqu'il s'agit de combattre pour sa gloire. Un autre fondateur protestant vénéré fut Martin Luther, plein de haine pour les Juifs. Extrait de l'article Wikipédia sur Martin Luther et de l'article Wikipédia sur la nuit de cristal, Kristallnacht, la nuit de verre brisé, Luther prôna d'abord la bienveillance envers les Juifs, mais uniquement dans le but de les convertir au christianisme, ce qu'on appelait la Judenmission. Quand ses efforts de conversion échouèrent, il devint de plus en plus amé à leur égard. Ses principales œuvres sur les Juifs furent son traité de 60 000 Movenden Juden und ihren Lügen des Juifs et de leurs mensonges, et Vom Schem Amphoras und Vom Geschlecht Christi, du nom sacré et de la lignée du Christ, réimprimé 5 fois de son vivant, tous deux écrits en 1543, 3 ans avant sa mort. Il soutenait que les Juifs n'étaient plus le peuple élu, mais le peuple du diable. Ils étaient un peuple vil et débauché, c'est-à-dire pas un peuple de Dieu, et leur vantardise de lignée, de circoncision et de loi doit être tenue pour de la saleté. La synagogue était une à épouse souillée, oui, une prostituée incorrigible et une méchante traînée. Et les Juifs étaient pleins de la fiente du diable, dans laquelle ils se vautrent comme des porcs. Ils préconisaient de mettre le feu aux synagogues, de détruire les livres de prière juifs, d'interdire aux rabbins de prêcher, de saisir les biens et l'argent des Juifs, de saccager leurs maisons, et de faire en sorte que ces vers venimeux empoisonnés soient forcés au travail ou expulsés pour toujours. Ils semblaient aussi cautionner leurs meurtres, écrivant « Nous avons tort de ne pas les tuer ». Persécution nazie des Juifs en Allemagne commença à grande échelle lors de la nuit de cristal, Kristallnacht, la nuit de verre brisé, au cours de laquelle 200 synagogues furent brûlées, des livres juifs, des rouleaux et des antiquités furent brûlés, 7500 vitrines de commerce juifs furent fracassées d'où le nom de verre brisé, des pierres tombales et des tombes furent arrachées, 30 000 Juifs furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration, au moins 100 furent immédiatement assassinés, et de nombreuses maisons furent. Un pogrom similaire, d'ampleur comparable, eut lieu à Vienne, en Autriche, la même nuit. Ces événements se produisirent les 9 et 10 novembre 1938, l'anniversaire de Lude était le 10 novembre. Le conseil de Lude fut appliqué à la lettre lors de la nuit de cristal. Ce fut le début de la solution finale et de l'Holocauste. Selon Michael, l'œuvre de Lude acquit le statut d'écriture en Allemagne et il devint l'auteur le plus lu de sa génération, en partie à cause du caractère grossier et passionné de l'écriture. L'opinion dominante parmi les historiens est que sa rhétorique anti-juive contribua de manière significative au développement de l'antisémitisme en Allemagne et, dans les années 1930 et 1940, fournit une base idéale aux attaques des nationaux-socialistes nazis contre les juifs. Reinhold Lewin écrit que « quiconque écrivait contre les juifs, quelle qu'en soit la raison, croyait avoir le droit de se justifier en se référant triomphalement à Lude. » Selon Michael, à peu près chaque livre anti-juif imprimé dans le Troisième Reich contenait des références à Lude et des citations de Lude. Heinrich Himmel écrivit en 1940, avec admiration, au sujet de ses écrits et sermons sur les Juifs. La ville de Nuremberg offrit un exemplaire de la première édition de Des Juifs et de leurs mensonges à Julius Treche, rédacteur du journal nazi Der Stürme, pour son anniversaire en 1937. Le journal le décrivit comme le tract le plus radicalement antisémite jamais publié. Le 17 décembre 1941, sept confédérations régionales d'églises protestantes publièrent une déclaration approuvant la politique consistant à forcer les Juifs à porter l'étoile jaune, puisque, après sa rude expérience, Lude avait déjà suggéré des mesures préventives contre les Juifs et leur expulsion du territoire allemand. Toutes les sectes protestantes et catholiques qui ont tué ou même approuvé de tuer, ceux qui avaient une opinion religieuse différente étaient très différentes des vrais chrétiens. Ne serait-ce qu'en envisageant le meurtre, elles suivaient et cédaient à leur père, le diable, qui fut meurtrier dès le commencement. Tous ces géants du soi-disant christianisme manifestaient une ignorance classique, croyant que la fin justifie les moyens, ce qui fait perdre de vue le principal commandement du Christ, aimer ses ennemis et non les détruire. Et ils ignorent la réponse du Christ à ses disciples lorsqu'il voulait punir ceux qui ne voulaient pas l'écouter, les réprimandant sévèrement par « Vous ne savez de quel esprit vous êtes ». Si quelqu'un viole les normes de l'Église pêche, il est censé être averti par un, puis averti par deux ou trois, puis censuré par tout le corps des croyants et s'il ne se repent pas de son erreur, il est censé être expulsé et évité et non tué, ni emprisonné, ni torturé, ni dépouillé de ses biens. À jour moderne de la part du « là où il y a obéissance, il y a justice, sans elle », vous avez la Seconde Guerre mondiale, Hitler, ancien, mes sentiments de chrétien me conduisent vers mon Seigneur et Sauveur en tant que combattant. Ils me conduisent vers l'homme qui autrefois, dans la solitude, entouré seulement de quelques disciples, reconnut ces Juifs pour ce qu'ils étaient et appela les hommes à lutter contre Zéki, vérité de Dieu, fut le plus grand non comme souffrant mais comme combattant. Dans un amour sans bornes, en tant que chrétien et en tant qu'homme, je lis ce passage qui nous dit comment le Seigneur se leva enfin dans sa puissance et saisit le fouet pour chasser du temple la couvée de vipères et d'aspics. Quelle terrifiante fut son combat pour le monde contre le poison juif. Aujourd'hui, après 2000 ans, avec la plus profonde émotion, je reconnais plus profondément que jamais auparavant dans le fait que c'est pour cela qu'il dut verser son sang sur la croix. En tant que chrétien, je n'ai pas le devoir de me laisser tromper, mais j'ai le devoir d'être un combattant pour la vérité et la justice. Et s'il est quelque chose qui puisse démontrer que nous agissons correctement, c'est la détresse qui grandit chaque jour. Car en tant que chrétien, j'ai aussi un devoir envers mon propre peuple. Quand je sors le matin et que je vois ces hommes faire la queue et que je regarde leur visage tiré, alors je crois que je ne serais pas un chrétien, mais un vrai diable si je n'éprouvais aucune pitié pour eux, si je ne me dressais pas, comme le fit notre Seigneur il y a 2000 ans, contre ce par qui aujourd'hui ce pauvre peuple est dépouillé et exploité. Adolf Hitler, dans son discours à Munich le 12 avril 1922, source http://acotripod.com Ben, The Speeches of Adolf Hitler, April 1922, August 1939, vol. 1 New York, Oxford University Press, 1942, p. 19-20. Aussi horrible et déplaisant que soit ce discours et cette photographie, ils illustrent comment le fait de s'appuyer sur un petit ensemble de passages bibliques, tout en ignorant ou en étant indifférent à l'ensemble des Écritures, peut faire naître une religion monstrueuse. Aujourd'hui, il existe 45 000 sectes du christianisme, chacune avec son sous-ensemble différent d'écritures, chacune avec ses interprétations différentes, chacune sans obéissance, chacune sans justice. Comme le Seigneur l'a dit ci-dessus, avec l'obéissance, il y a justice, sans l'obéissance, il y a la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup d'œuvres merveilleuses, et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, péché, absence de loi ou méchanceté. » Matt 7, 22-23 Hitler et ses partisans furent grandement influencés par les œuvres de Lude. Les croyances de Lude reposaient sur la prise d'un sous-ensemble des Écritures, tout en rejetant les livres d'Est, des Hébreux, de Jacques, de Jude et de l'Apocalypse. Il appela l'épître de Jacques « une épître de paille », estimant qu'elle entrait en conflit avec la foi en Christ et en son œuvre salvatrice. Pourtant, Jacques était un apôtre, un frère naturel de Jésus, et une colonne de l'Église à Jérusalem avec Jean et Pierre, ce qui le rendait bien plus grand en Christ que Lude. Lude eut aussi des paroles dures pour le livre de l'Apocalypse, disant qu'il ne pouvait, en aucune façon, y déceler que le Saint-Esprit l'ait produit. La doctrine de Lude ne pouvait concilier les avertissements sérieux de Jésus dans l'Apocalypse à 5 des 7 églises de croyants, à savoir qu'elles étaient sur le chemin de la destruction, avertissement qui contredisait la doctrine de Lude selon laquelle il suffisait de croire, avec une grâce instantanée. En prenant un sous-ensemble des Écritures, Lude et Hitler crurent tous deux qu'ils étaient sauvés par la croyance. Voyez-vous combien il est ridicule de croire que quelqu'un est sauvé tout en continuant à pécher? Hitler croyait être sauvé, il croyait avoir la justice du Christ qui lui était donnée par le sang du Christ. Pouvez-vous imaginer Christ prenant Hitler ou Lude dans ses bras, eux qui étaient si pleins de haine? Les milliers de prêtres romains qui torturèrent lentement et assassinèrent 9 millions d'âmes priaient tous quotidiennement, disaient que Jésus était Seigneur, lisaient leur Bible, avaient été baptisés, communiaient régulièrement, et plus encore c'était de très saints, meurtriers de masse. Toutes les Écritures sont compatibles, si vous devez écarter un passage pour maintenir votre compréhension, alors vous ne comprenez pas les autres passages que vous pensez comprendre. Voyez-vous comment l'esprit humain peut interpréter un sous-ensemble de l'Écriture et créer une fantaisie, une foi fictive, qui peut justifier n'importe quel degré de péché. Le diable aurait-il pu créer un pire évangile pour mieux servir ses fins, la perpétuation du péché, la chute continuée de l'homme, l'illusion d'être sauvé, mais la garantie de la mort de l'âme pour un pécheur sauvé par la grâce. Comme l'a dit Isaac Pennington, il ne peut plus y avoir de réconciliation entre Dieu et l'homme, sinon par le changement de cette nature chez l'homme, car Dieu est immuable, il est lumière, il est vie, il est sainteté immuable, et ne sera jamais réconcilié avec les ténèbres, avec ce qui est mort et impie, ce qu'est l'homme dans son état de chute jusqu'à ce qu'il soit engendré de nouveau à Dieu, changé et renouvelé de sa nature mauvaise et pécherait en une nature bonne et sainte, et jusqu'à ce qu'il soit détourné des œuvres mauvaises et qu'il sache ce que c'est. Cela ne se produit pas en prononçant des paroles, en se mouillant ou en mangeant du vin et du pain. Hitler et les prêtres tortionnaires ont fait tout cela aussi. Pennington nous dit encore comment cela se produit. Rien ne peut produire ce changement chez l'homme, sinon l'Esprit et la puissance du Christ, la grâce et la vérité qui sont par Jésus-Christ. Par conséquent, un homme doit s'assurer qu'il reçoit cet Esprit et cette puissance, qu'il en ressent la vertu opérante et transformatrice, et qu'il est réellement changé par elle, étant créé à nouveau, la nouvelle créature, engendrée de nouveau à Dieu dans la sainteté et la justice de la vérité, filé serviteur du Dieu vivant, où il ne pourra jamais connaître ce qui appartient à la véritable réconciliation avec Dieu et à la communion avec lui dans la lumière et la vie de son Fils. Toutes les religions et professions sur la face de la terre, qui n'atteignent pas cet esprit, cette vie et cette puissance, et dans lesquelles cette nouvelle création en Jésus-Christ n'est pas attestée, expérimentée ni la puissance reçue pour s'abstenir du mal et devenir des fils de Dieu, ne sont pas la religion évangélique pure et puissante, dans laquelle la vertu divine et la puissance de la vie opèrent, mais celle que les hommes, dans la sagesse terrestre, ont formée sans vie. Et toutes les religions qui n'ont qu'une forme de piété, et non la puissance doivent être rejetées, et dénoncé par ceux qui sont appelés à être témoins de la vraie religion évangélique et de la vraie voie de culte, qui consiste en esprit, vie et puissance. Cette religion et ce culte, qui consiste en esprit, vie et puissance, sont la religion et le culte que le Christ a établi il y a environ 1600 ans. Jean 4, 23-24, 1 Cor 4, 20, Rome 6, 4. Et c'est la religion que Dieu a ravivée et rétablie, comme ceux qui reçoivent l'Évangile le prêchent maintenant, et croyant en la puissance qui est à la fois attestée extérieurement et révélée intérieurement, ils en ont le témoignage dans leur propre cœur. Rêve 14, 6, 7, 1 John 5, 11, 12, Isa 51. Oh, combien ces Écritures sont douces lorsqu'elles sont correctement lues et correctement comprises, le Seigneur donnant la juste compréhension et conduisant à la vraie expérience de celle-ci. Celui qui est correctement fondé, je veux dire, dans la vraie et sensible expérience de celle-ci dans son cœur, ne peut manquer de la direction de Dieu pour y faire un progrès sûr et heureux, pourvu qu'il attende quotidiennement le Seigneur, afin d'être enseigné et conduit par lui de plus en plus dans la vie, l'esprit et la puissance de la vérité, de sorte qu'il sera enseigné par Dieu à connaître son Fils Jésus, et la liberté qui est par la vérité telle qu'elle est en Jésus chaque jour davantage. Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse, avec ses passions et ses désirs, convoitises et affections. Galates 5, 24. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.